J'avais la chance d'être avec le professeur Antoine Flahault. J'aimerais d'abord lui poser une question. Que sait-on vraiment aujourd'hui de ce fameux virus ?
Alors, il y a peut-être plusieurs façons de répondre à cette question. Je vais d'abord parler du germe lui-même, du virus, et puis après, on parlera de la mortalité, qui est une sorte de bon indicateur de la sévérité d'une maladie. Alors, le virus lui-même, c'est un virus, c'est un coronavirus, la famille des coronavirus que l'on connaît bien, mais ça ne nous indique pas grand-chose, parce qu'il y a des coronavirus extrêmement bénins que nous avons tous dans notre nez, un jour ou l'autre de notre vie, qui donnent des petits rhumes de forme très banale et qui n'ont aucune conséquence sur la santé. Et puis, il y a eu des coronavirus d'une très grande gravité. Par exemple, vous avez mentionné le SRAS, mais également le MERS, qui sont deux coronavirus qui ont véritablement une dangerosité même supérieure à celle du SARS-CoV-2, du virus de la COVID-19, en termes de taux de létalité, c'est-à-dire il y a à peu près entre 10, 20, parfois 30% des malades atteints qui en meurent. Alors, le SRAS, c'est une histoire qui s'est terminée très rapidement. Disons, en 9 mois, le virus a été éradiqué de la planète. Il n'y a plus aujourd'hui de SARS-CoV, qui est le premier coronavirus.
Et qu'est-ce qui fait qu'il a disparu ?
On ne sait pas très très bien, mais une des raisons, c'est sa dangerosité et sa gravité. C'est-à-dire que quand vous avez un virus qui donne, dans tous les cas, une pneumonie très sévère, qui nécessite une hospitalisation, les formes asymptomatiques sont très rares, probablement moins de 5%, alors vous ne pouvez pas prendre un avion sans être très malade, sans atterrir et arriver à l'hôpital, et l'on vous attrape tout de suite. Les chaînes de transmission sont beaucoup plus limitées que pour un virus comme celui du SARS-CoV-2, de la COVID-19, où vous pouvez avoir une grande proportion de cas asymptomatiques, peut-être 15% ou 20%, mais aussi de formes qu'on appelle post-symptomatiques, qui donnent très peu de symptômes, qui sont très peu décelables, y compris des personnes elles-mêmes quand elles sont infectées. Elles peuvent avoir un simple rhume, une petite toux, une fièvre parfois simplement une anosmie, c'est-à-dire une perte de l'odorat ou du goût, une agueusie, et c'est tout. Et évidemment, il y a un certain nombre de formes qui sont plus graves, qui vont être repérées plus facilement, mais ces formes peu graves, peu symptomatiques, vont à bas bruit, de façon assez silencieuse, disséminé dans la population, et vous allez avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à éradiquer un tel virus. On n'est pas sorti de ce problème parce qu'on aura beaucoup de difficultés à éradiquer le virus, sauf si on dispose, par chance, je dirais presque, d'un vaccin d'une grande efficacité.
Alors, on reviendra sur le vaccin. Donc, vous avez évoqué la mortalité. Quel est le taux de létalité et de mortalité aujourd'hui, et à combien est-ce qu'on les évalue ?
Voilà. Alors, la mortalité, elle est importante à évaluer assez rapidement dans une maladie émergente, et c'est une chose difficile à faire parce que il y a plusieurs types de mortalité. Il y a des mortalités directes que l'on arrive à très bien évaluer, puis il y a une mortalité potentiellement indirecte, c'est-à-dire de personnes qui, au décours d'une infection à coronavirus, vont décompenser leur maladie préexistante, une insuffisance cardiaque, une maladie neurologique grave ou je ne sais quelle maladie liée à l'âge, qui vont faire que peut-être elles vont en mourir, peut-être pas nécessairement des complications de leur coronavirus, de leur infection par coronavirus, mais de leur propre maladie. Et puis, il y a la mortalité directe. Aujourd'hui, on a pu estimer, en particulier dans le canton de Genève, grâce à l'étude de séroprévalence qu'on a conduite entre le campus Biotech et les HUG, on a été une des premières équipes au monde à pouvoir très clairement estimer cette mortalité en ce qu'on appelle IFR, qui veut dire Infection Fatality Rate, qui est en fait le nombre de décès rapportés au nombre véritable d'infections et pas simplement au nombre de cas rapportés par la veille sanitaire, qui varie beaucoup d'un pays à l'autre en fonction des stratégies de dépistage. Eh bien, ce taux, il est un petit peu inférieur à 1%, c'est-à-dire un peu moins de 1% des infections par ce SARS-CoV-2, ce coronavirus, décède de son infection en mortalité directe. Il y a peut-être, encore une fois, d'autres décès qui sont attribuables.
Et si vous le comparez, par exemple, par rapport au SRAS, par rapport au MERS?
Alors, quand on, je vous avais dit, pour le SRAS ou pour le MERS, c'est de l'ordre de 10, 15, 20%.
Donc, c'est bien plus élevé.
Donc, on est beaucoup, beaucoup plus élevé avec ces maladies-là. On est ici dans une maladie qui paraît pas si grave que ça, puisqu'elle ne... n'aurait comme mortalité que 1%. En réalité, 1%, c'est énorme lorsque on a affaire à un virus qui a une grande transmissibilité. Si une grande fraction de la population est infectée, 1%, ça devient énorme. Derrière le 1%, il y a toute une bataille pour que les gens ne meurent pas. Donc il y a beaucoup de soins de réanimation, car ce sont ceux-là qui décèdent, et puis qui vont venir engorger ou risquer d'engorger les hôpitaux. Donc en soi, le fait que la mortalité soit faible n'est pas une si bonne nouvelle que cela, parce que d'une part, ça veut dire que une grande partie des cas vont diffuser, continuer à propager l'infection sans qu'on le voit bien. Et d'autre part, ce petit pourcentage rapporté à une grande fraction de la population finit par être extrêmement important.
Et comment est-ce que vous appréciez ce jugement qui est porté par certaines personnes en disant « nous n'avons pas suffisamment de recul ». Il faudra vraiment se positionner dans 2 ans et de regarder finalement quelle a été l'incidence. Sachant que ce qu'ils veulent exprimer, c'est que les personnes faibles, effectivement, ont subi de plein fouet justement cette épidémie. Et peut-être qu'ensuite, on aura un delta de mortalité qui sera plus bas et qui sera compensé sur les 2 prochaines années.
Oui, ça s'appelle l'effet de Moisson.
Exactement.
Qui a été très connu, par exemple, pour la canicule de 2003. Il est vrai que ces personnes âgées qui ont succombé l'hiver dernier à la Covid-19 ne succomberont pas l'année prochaine. Donc cet effet de Moisson, il est tout à fait possible qu'on le voit. L'expérience des pandémies montre que la deuxième vague, lorsqu'elle est survenue, par exemple pour la grippe de Hong Kong ou pour la grippe espagnole, est parfois plus mortifère que la première. Donc je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui tabler sur cet effet de Moisson pour penser que la mortalité sera beaucoup plus faible. Nous n'en savons rien. Nous savons quand même que la mortalité des personnes les plus jeunes est très très basse, parce que ce taux de mortalité que j'évoquais, un peu inférieur à 1%, il est très différencié entre les classes d'âge. Si vous avez moins de 50 ans, la mortalité est très très faible. Si vous avez moins de 10 ans, elle est nulle. Si vous avez plus de 80 ans, elle est beaucoup beaucoup plus élevée. Elle est de plusieurs pourcents. Peter Piot, qui lui-même d'ailleurs a eu la Covid-19 cet hiver, disait dans le fond, si vous avez plus de 70 ans, la mortalité par Covid est très proche de la mortalité par Ebola en Afrique de l'Ouest lorsque l'épidémie est survenue il y a quelques années. C'est-à-dire, on arrive dans des mortalités qui se rapprochent de celles du SRAS, dont on parlait tout à l'heure, de 10-20%. Donc elle est très différenciée en fonction de l'âge. La dernière chose que je voulais dire sur la mortalité, qui permet de classer un peu la Covid-19 par rapport aux autres événements de santé, c'est que vous avez aujourd'hui, milieu de l'été 2020, vous avez une mortalité en Suisse, en Europe on va dire, qui est proche de celle de la mortalité routière, par accidentologie routière. Ce qui est, je dirais, du domaine des mortalités que l'on accepte. On n'a pas supprimé la circulation routière parce qu'il y avait des morts sur la route. Tous les jours s'égrènent des morts sur les routes. On fait tout pour les en empêcher. On promulgue des limitations de vitesse dans certaines agglomérations ou sur certaines routes, certains tronçons. On promulgue aussi des obligations de port de la ceinture de sécurité.
Et des mesures de prévention. Et ça nous amènera au masque.
Voilà, et ça nous amène au masque, ça nous amène aux limitations des rassemblements peut-être, ça nous amène aussi aux stratégies politiques sur les infrastructures routières qui pourraient être des stratégies sur les infrastructures hospitalières ou de testing, etc. Donc je dirais qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, on est dans une gestion qui peut s'apparenter à celle que l'on a vis-à-vis de la mortalité routière. Mais au cœur de l'épidémie, la cause numéro 1 de mortalité en Suisse, en France, en Espagne, en Italie, dans une moindre mesure en Allemagne, est devenue la Covid-19. Pour vous dire, pour prendre un pays comme la France, qui a connu une mortalité assez élevée, mais voisine de celle du canton de Genève, le canton de Genève a eu une mortalité particulièrement forte en Suisse. Eh bien, au cœur de l'épidémie, dans tout l'ensemble du premier semestre 2020, il y a eu 30 000 morts en France. Et la première cause de mortalité en France, c'est l'infarctus du myocarde, comme en Suisse, et c'est 31 000 morts par an. C'est-à-dire qu'il y a eu deux fois plus de morts, de mortalité, à cause de la Covid-19 au premier semestre 2020 dans un État comme la France. Donc on voit bien sur une maladie qui est extrêmement mortifère et qui peut, malgré son apparente... son visage apparemment de relative bénignité, puisque c'est moins de 1% la mortalité par infection, devenir une des toutes premières causes, voire la première cause de décès.
Alors ça nous appelle naturellement à la question de la transmission du virus. Qu'est-ce que l'on en sait aujourd'hui ? De l'air, la transmission par gouttelettes, la transmission par sécrétion ?
Alors, la transmission du virus... c'est aussi une question qui est difficile parce que il est toujours difficile de démontrer que l'on a été contaminé par telle ou telle voie de transmission, à part certaines voies très très spécifiques comme la voie sexuelle. On n'a pas de voie sexuelle très démontrée pour la transmission du coronavirus. En revanche, c'est un virus à transmission respiratoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la transmission respiratoire ? Ça veut dire que quand on parle, comme on le fait en ce moment, on émet des petits postillons qui sont en fait des gouttelettes par le fait de la gravité, pour la plupart d'entre elles, retombent sur la table, sur notre smartphone, sur notre clavier d'ordinateur, sur le sol et sur nos vêtements aussi, sur notre pantalon en particulier. Une petite fraction de ces gouttelettes peuvent atterrir sur votre interlocuteur si vous êtes à moins de 1m50, 1m.
D'où les questions de distanciation sociale.
D'où l'idée de la distanciation sociale qui prévient une bonne partie de ces gouttelettes. Et puis, une petite partie de ces gouttelettes peut être fractionnée. On le sait, par exemple, chez les gens qui chantent. Quand vous chantez, vous fractionnez ces gouttelettes en micro-gouttelettes qui ont une capacité de rester dans l'air ambiant, flottant, on va dire, pendant plusieurs heures. Avant, elles vont retomber aussi, mais plus lentement, par la gravité. Cela d'autant plus que vous êtes dans un environnement mal ventilé et clos. Si vous êtes en milieu extérieur, ces petites fractions de postillons vont très vite être diluées par l'atmosphère. Ces micro-gouttelettes, qu'on appelle des voies aérosols, sont des particules qui peuvent éventuellement transmettre aussi, on l'a démontré aujourd'hui, le coronavirus, et qui, lorsqu'elles sont infectées, ces micro-gouttelettes, et qui légitiment que vous portiez un masque quand vous êtes en atmosphère clos, moins bien ventilée. L'autre voie de transmission qui est un petit peu, consubstantiel, c'est la voie qu'on appelle manuportée, c'est-à-dire que ces micro-gouttelettes qui se déposent sur les surfaces planes peuvent, et qui sont potentiellement infectées, peuvent être transmises à nouveau par vos voies respiratoires parce que vous touchez ces surfaces planes et que vous les portez votre main à votre bouche. Donc le lavage des mains est un peu aussi la troisième mesure individuelle qui permet de réduire les risques. On a parlé de la distanciation physique, on a parlé du port du masque et on parle maintenant du lavage des mains. Donc voilà un petit peu les modes de transmission. Il y a une autre voie de transmission dont on ne sait pas non plus sa part attribuable, mais qui est toujours potentielle, c'est que les gens infectés ont très souvent dans leurs fesses, c'est-à-dire dans leurs selles, des virus vivants. Et donc, il pourrait y avoir une voie digestive de transmission, notamment par l'eau, les eaux usées ou par les aliments. Mais encore une fois, c'est largement mineur. Je pense qu'il faut retenir que la voie majeure, c'est la voie aéroportée, surtout à faible distance, petite voie probablement par aérosol, en milieu extrêmement clos, confiné et bondé.
Et là, la question qui va se poser, c'est naturellement, pendant combien de temps sommes-nous contagieux ? Quel est le degré dans lequel, justement, il va y avoir une incubation possible ?
Alors, un peu la mauvaise nouvelle, c'est que les gens asymptomatiques ou post-symptomatiques semblent contagieux, et que les gens symptomatiques sont contagieux avant qu'ils aient leurs symptômes.
Et combien de temps ?
Au moins deux jours avant.
Au moins deux jours.
Au moins deux jours. Enfin,
parce que c'est une donnée qui a largement varié.
Oui, mais aujourd'hui, on est tous à peu près d'accord pour dire qu'on est contagieux deux jours avant l'arrivée des symptômes. Ce que l'on dit aussi, c'est qu'en en fait, dans sa vie de personne affectée par le coronavirus, on infecte à peu près la moitié des gens qu'on doit infecter avant nos symptômes et l'autre moitié après les symptômes. La moitié des contaminations se passe chez les gens asymptomatiques ou présymptomatiques. Et l'autre moitié, alors vous pourriez être...
Donc l'effet de quarantaine préventive ne bloquerait pas non. plus que 50%.
Voilà, exactement. Donc la quarantaine, à part pour les gens venant de l'étranger, les voyageurs venant de zones à risque qui sont mis en quarantaine, toute la partie où ils seront mis en quarantaine sera la totalité du blocage pour le pays d'accueil. Mais en revanche, les mises en quarantaine des contacts, par exemple, si elles sont mises après leurs symptômes, enfin, s'ils sont identifiés après que leurs symptômes sont apparus, n'empêche pas qu'ils ont pu contaminer des gens avant que leurs symptômes arrivent. Voilà. Donc, je pense que ça pourrait paraître un peu paradoxal. Pourquoi est-ce que les gens... contagieux, qui toussent, qui éternuent, qui ont des symptômes justement, ne sont pas plus contagieux, ne semblent pas contaminer plus de personnes que les personnes que lorsqu'elles sont asymptomatiques. En fait, la raison, elle est liée au réseau de contact. Quand vous n'êtes pas symptomatique, vous n'avez pas tellement de raisons, puisque vous n'êtes pas au courant que vous êtes simplement malade ou infecté. Vous n'avez pas de raison, à part si vous êtes mis en quarantaine, mais vous n'avez pas de raison de réduire vos contacts. Vous allez au travail, vous contactez, vous invitez des gens, vous allez boire des verres. Vous avez des conduites qui placent vos interlocuteurs à risque. Alors que quand vous êtes symptomatique, même si vous n'êtes pas encore identifié comme porteur du virus, probablement vous vous autoconfinez davantage et donc vous avez beaucoup moins, à part dans la petite cellule familiale, moins d'occasion de diffuser le virus.
Je me rappelle très bien au mois de janvier, alors que la première vague n'était encore pas très connue en Europe. On vous avait invité dans le cadre d'un Learn and Lunch et quelque part c'était une discussion plutôt de savoir si la vague qui partait de Chine allait nous toucher. Et vous aviez évoqué différents scénarios. Aujourd'hui, 8 mois sont passés. Qu'est-ce que vous pensez de la deuxième vague? Oui. Est-ce que c'est une psychose? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une extrapolation?
Alors, dans toutes les pandémies de grippe, il y a eu plusieurs vagues. Que ce soit la pandémie de 2009, la toute dernière, que ce soit la pandémie de 1968 de Hong Kong, dont on a parlé à l'instant, ou la grande grippe espagnole. Et c'est vrai aussi pour la pandémie de 1957. Donc la grippe se passe en plusieurs vagues. Simplement, la différence entre la grippe et le coronavirus, c'est que la grippe, elle disparaît l'été. Pour qu'on parle d'une deuxième vague, en général, on attend une véritable disparition. Je ne sais pas s'il va y avoir une deuxième vague, ou si l'hiver, ou l'automne puis l'hiver, vont voir se prolonger ces foyers, ces clusters que l'on voit aujourd'hui, peut-être au même rythme, ou si la levée du frein estival, qui peut-être n'est que partiel sur, en tout cas s'il existe, il n'est visiblement que partiel sur ce coronavirus, mais la levée du frein estival va entraîner une dynamique proche de celle que l'on voit aujourd'hui en Amérique latine ou même en Australie, qui a du mal à faire face à l'assaut de la vague de l'hiver. Donc, j'ai pas de raison de faire des pronostics qui peuvent être très, très fiables, mais on peut à nouveau faire des scénarios et se dire que je dirais qu'aujourd'hui il y a 2 scénarios que j'envisagerais volontiers. Un qui serait très atypique, qui serait la prolongation
de la première vague, avec l'apparition de foyers de ci, de là,
assez bien contrôlé parce qu'on met tous les moyens pour les contrôler. Et le deuxième scénario qui est que nous ne saurons pas faire face, malgré tous les efforts que nous allons déployer, à l'assaut d'une seconde vague qui pourrait être plus longue, plus forte, parce que simplement elle commencera sur un terrain très ensemencé pendant l'été, sur l'ensemble du territoire, et que la levée du frein estival fera que sa croissance exponentielle pourra se déployer pendant tout l'automne, puis tout l'hiver, puis tout le début du printemps.
Et la question, c'est comment est-ce qu'on va en finir avec ce Covid?
Alors, si une très forte vague survenait pendant l'automne, l'hiver et le début du printemps, et qu'on n'arrivait pas à la contenir, le pendant de cette mauvaise prévision de scénario serait qu'au moins l'immunité grégaire, collective, serait probablement à la sortie du printemps quand même beaucoup, beaucoup plus élevé.
Et quand vous parlez de plus élevé, on parle de quel chiffre ?
Alors aujourd'hui, dans le canton de Genève, on a fait cette étude de séroprévalence et on a vu que 10% de la population du canton était immunisée, ce qui est pas suffisant pour permettre l'immunité grégaire. Mais si on ajoutait à ces 10% encore, disons, une trentaine ou une quarantaine de pourcents dus à la vague, à la deuxième vague, on ne serait probablement pas très très loin de ce que l'on peut espérer.
Et dans la dynamique actuelle, pour arriver à avoir ces 50-60%, ça ne prendrait combien de temps ?
Alors, peut-être si la vague est très importante cet automne et cet hiver, ça pourrait être rapide. Ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que tout ce que l'on va déployer pour retarder et écréter le pic, va évidemment
se retourner contre nous plus tard.
Pas contribuer à cette stratégie d'immunité, mais on voit bien que si on ne fait pas cela, on risque d'être débordé par la vague elle-même et avoir à nouveau nos hôpitaux engorgés, etc.
Mais si l'on regarde aujourd'hui, effectivement, on a une centaine de cas, même si c'est des chiffres qui sont peu significatifs, mais la mortalité est très basse. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas simplement vivre normalement, ne serait-ce que pour anticiper justement cette immunisation naturelle, simplement pour éviter de se retrouver en hiver avec un problème ou une bombe à retardement ?
Alors, c'est un peu ce qu'on appelle la stratégie de l'immunité grégaire. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'experts, à ma connaissance, qui la défendent véritablement, à part un infectiologue que je connais bien en France. La Suède n'a pas défendu cette stratégie. Anders Tegnell, qui est un très bon épidémiologiste suédois, a défendu une stratégie qui vise à ne pas confiner la vie sociale et économique du pays. Si ce n'est les personnes à risque. Les écoles, les bars, les restaurants, les cinémas sont restés ouverts, les universités ont fermé, les rassemblements de plus de 50 personnes ont été interdits, et les personnes à risque ont été sélectionnées pour être protégées. D'ailleurs, à mon avis, pas assez bien en Suède. Ils auraient probablement pu faire mieux. En tout cas, c'est Anders Tegnell qui le dit lui-même. Mais à aucun moment, ils n'ont eu une stratégie de promotion de l'immunité collective. Ils ont toujours promu le télétravail. D'ailleurs, Anders Tegnell a demandé avec la ministre de la Santé suédoise très récemment, ces derniers jours, de prolonger le télétravail jusqu'à la fin du mois de décembre pour toutes les personnes qui le pouvaient. Donc il y a une promotion du télétravail, une promotion d'une forme d'auto-confinement, mais pas du confinement de la vie sociale et économique. En pensant, les autorités suédoises pensaient qu'il valait mieux avoir des bars et des restaurants qui tournaient à 25 ou 50% de leur capacité, de leur activité habituelle, plutôt qu'à 0%.
Mais là, c'était essentiellement non pas des considérations de politique de santé, mais des considérations de politique économique.
Alors, en fait, je ne crois pas. Je pense que c'était un peu caricatural de dire cela. Ça a été beaucoup dit pour la Suède, donc certains experts diront cela. Mais je pense que c'est méconnaître la culture de santé publique de la Suède. Vous savez, la Suède a les meilleurs indicateurs de santé du monde, la meilleure espérance de vie, la meilleure aussi qualité de vie, les indicateurs de Gini et autres, de qualité de vie, de bien-être, sont très très élevés en Suède. La Suède a confiance dans son gouvernement et suit ses préconisations. Et quand, par exemple, le gouvernement a dit qu'il fallait rester chez soi et ne pas trop bouger, alors qu'ils n'ont jamais interdit la circulation sur les routes de Suède, pas plus qu'en Suisse d'ailleurs, le trafic routier s'est écroulé à plus de 90%. Donc les gens ne sont pas partis en week-end de Pâques, alors qu'ils auraient pu le faire. Il a fait très beau, ils auraient pu aller sur la côte ouest, comme ils le font souvent depuis Stockholm. Ils ne l'ont pas fait spontanément, sans aucune interdiction. Donc je pense que les Suédois ont misé sur la responsabilisation.
Une conscience citoyenne.
La conscience citoyenne, la participation.
Ce que l'on a aussi vécu en Suisse.
Mais ce qu'on a beaucoup vécu en Suisse, en Allemagne, en Autriche. Et je pense que c'est une stratégie qui est une stratégie de responsabilisation, ça n'est pas une stratégie visant à mettre la primauté sur l'économie.
Et est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris, le fait que cette confiance aux autorités, le suivi par rapport aux mesures qui avaient été imposées, est-ce que c'est quelque chose auquel vous attendiez, ou vous pensiez que les gens auraient été plus individualistes, conscients de leur liberté et qui, quelque part, auraient pu nous mener à des travers un petit peu dangereux ?
Non, moi j'ai assez confiance dans le citoyen sur ce genre de questions. C'est-à-dire que je pense que on a trop tendance, dans les pays latins, en France aussi, à infantiliser un peu le citoyen, à ne pas lui faire confiance, à penser qu'il ne sera pas capable de maîtriser ses pulsions individualistes. Et il me semble que tout montre, quelle que soit la société, qu'elle soit occidentale, africaine, asiatique, que lorsque vous avez la perception d'un risque imminent, vous prenez toutes les mesures qu'il faut pour vous protéger. C'est-à-dire qu'on a dit pour beaucoup de préjugés qui se sont avérés totalement faux vis-à-vis du sida et des Africains, qui ne mettraient pas de préservatif, qu'ils n'avaient pas la culture. On a dit la même chose pour le masque et les Occidentaux, qu'on n'avait pas la culture du masque. À partir du moment où y a pas, les gens autour de vous ne sont pas malades, ne tombent pas comme des mouches, vous n'avez pas la culture du masque. Mais quand vous voyez qu'il y a vos proches qui se font hospitaliser, et qui sont en décubitus ventral pendant plusieurs semaines pour lutter contre la détresse respiratoire en réanimation, ça vous motive.
Ça vous convainc d'avoir une adhésion par rapport aux mesures.
Voilà. Et donc, je pense que plutôt que d'infantiliser les gens, il vaut mieux que
on leur explique.
On leur explique et puis qu'on suive aussi, qu'il y ait une réponse qui soit un peu graduée en fonction du niveau de risque. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être en alerte permanente dans la population et vous ne pouvez pas non plus répéter des messages à tout le monde, le confinement de la France entière, alors que toute une partie dans le sud-ouest ne connaissait pas seulement un cas de circulation du virus, était peut-être excessive, par exemple. Comment avoir une adhésion? Alors oui, vous avez l'obligation légale de sortir qu'avec une attestation voilà, sous peine d'amende ou de prison. Les Italiens, les Espagnols ont fait la même chose. Il y a eu des petites révoltes dans le sud de l'Italie qui ne connaissaient pas les misères du nord de l'Italie. Donc je pense que si on fait plus confiance, on est plutôt à la fin du compte gagnant, et je dirais presque que les chiffres vont dans ce sens, puisque la mortalité en Suisse alémanique en particulier, la mortalité en Autriche ou en Allemagne, et dans tous les pays nordiques, a été très inférieure à celle qu'on a pu connaître dans les pays plus latins.
Et bien sûr, la réponse ultime sera le vaccin.
Et la réponse...
Comment est-ce que vous le voyez?
Alors, le vaccin, c'est une question de chance. À mon avis. Évidemment, pas uniquement, on peut provoquer la chance. Il y a 165 vaccins aujourd'hui en développement.
En cours de développement. Dont les premiers sont entrés en phase 3.
Oui, il y en a 140 qui sont encore en phase préclinique. Mais les premiers sont en phase 3. Il y en a 6 en phase 3 au jour où on se parle. Et parmi ces vaccins, il y a des vaccins très différents, de catégories très différentes. Il y a des vaccins vraiment de génie génétique, il y a des vaccins dont les vecteurs sont des virus vivants, évidemment très bénins. Il y a des vaccins qui sont des protéines, en fait, en particulier la fameuse protéine Spike. Et puis il y a des vaccins qui sont des vaccins plus classiques, vaccins vivants, soit inactivés, soit atténués. Je serais évidemment très surpris que sur ces 165 vaccins en cours de développement, candidats vaccins, il n'y ait pas au moins un vaccin qui sorte.
On parle en général d'une proportion d'un à 10.
Oui, alors on devrait avoir une petite dizaine de vaccins qui nous revient sur le marché. Après, on va avoir un profil de sécurité et un profil d'efficacité. Ça prend un peu de temps. Et je ne suis pas certain qu'on ait rapidement un vaccin qui ait fait la totale preuve de son innocuité. Sauf peut-être si, par chance, les vaccins de facture les plus classiques, c'est-à-dire des vaccins vivants atténués ou vivants inactivés, émergent après leur phase 3 comme des vaccins sélectionnés et mis sur le marché. Si c'était le cas, alors ça réglerait très rapidement le problème, parce que ce seraient des vaccins dont on aurait une certaine confiance en matière de sécurité et qui pourraient s'avérer très efficaces. Rappelons que le vaccin de la fièvre jaune est l'un des vaccins les plus efficaces au monde, il est un des plus anciens et c'est un vaccin vivant atténué. Donc si en revanche ce sont les vaccins issus des toutes dernières innovations technologiques qui emportent la mise, ce qui n'est pas du tout sûr au jour d'aujourd'hui.
Là vous parlez de Moderna et ce type de vaccin.
Voilà. Et alors on aura probablement envie d'avoir une expérience plus prolongée avant d'adhérer complètement à ce type de stratégie vaccinale. C'est-à-dire que,
donc c'est le principe de prudence qui va prévaloir.
Je crains en tout cas qu'il y ait une grande réserve de beaucoup de gens à se faire vacciner, en particulier des gens qui se sentiront peu à risque. Il y aura probablement une stratégie de type bénéfice-risque, d'évaluation du rapport bénéfice-risque pour se dire que les personnes qui sont très à risque, comme les gens de plus de 80 ans, peut-être seront très contentes d'avoir un vaccin, même avec quelques incertitudes sur l'avenir lointain de la sécurité de ce vaccin. Les gens jeunes ou les personnels de santé risquent d'être beaucoup plus réticentes, et peut-être qu'on pourra les comprendre vis-à-vis de l'utilisation de ce type de vaccin.
À vous entendre, on va encore devoir apprendre à vivre avec ce virus pendant les prochains mois. Comment est-ce que vous les voyez, ces prochains mois ?
Je pense que le grand tournant dans la gestion de cette pandémie, c'est lorsque l'on a décidé de parler clair sur le masque. Pour le sida, la question avait été le préservatif. Pour le coronavirus, la question, ça aurait été le masque. Au début, on croyait qu'on manquait de masques. J'expliquerai pourquoi je dis « on croyait que ». Et on a préféré avoir un discours un peu complaisant. Et quand je dis « on », c'est quand même beaucoup, beaucoup d'experts, et en particulier de médecins, de personnels soignants, voulaient garder les masques pour les personnels soignants, ce qui est tout à fait compréhensible. Les personnels soignants, on les envoie un peu au feu, sur les tranchées. Et on a besoin qu'ils soient protégés, au minimum, d'un casque. Et voilà. C'est un peu pareil, on leur donne les masques dont on dispose, et on ne voudrait surtout pas que le grand public se mette à vouloir des masques, parce qu'on ne serait pas capable de leur donner. Le tournant, c'est lorsqu'on se rend compte que chacun peut se faire son masque lui-même. J'ai tweeté au mois de janvier un petite vidéo, un petit tuto d'un chinois, d'un collègue de l'université d'ailleurs de Genève, de Wuhan, dont la famille était à Wuhan, et qui nous a montré comment avec un mètre de papier toilette, on pouvait faire, et un petit élastique, on pouvait faire un masque de protection. J'ai tweeté ça en disant, si vous n'avez pas de masque, plutôt que de pleurnicher, que le pouvoir public vous l'apporte, faites-le vous-même. J'aurais presque espéré que dans toutes les maisons de retraite, les EMS, on fasse faire des masques aux résidents et qu'ils puissent en mettre, et que tous les personnels puissent en mettre, plutôt qu'on se lamente de ne pas avoir de masque chirurgical à notre disposition. Donc on pouvait tout à fait réserver les masques du marché, homologués pour les personnels soignants et les personnels des EMS, et puis proposer à la population de se faire des masques. Aujourd'hui, on voit fleurir des masques sur le marché, en tissu, des masques alternatifs, et je pense que c'est une très très bonne chose, et je pense que le masque, à lui seul, peut être une réduction de risque considérable. Je pense que c'est par ailleurs pas quelque chose d'extrêmement désagréable. C'est pas très facile de parler avec un masque, c'est pas très facile de vivre en permanence avec un masque. C'est probablement pas possible d'avoir un masque de façon prolongée à son propre domicile, dans ses relations familiales. Donc le noyau familial va rester un haut lieu de transmission, ça c'est sûr. Mais en revanche, à l'extérieur, je pense que l'utilisation du masque va être de plus en plus universelle, peut-être de façon plus prolongée, comme vous le dites, parce qu'on va se rendre compte aussi que le masque fait tomber les autres maladies respiratoires. On a vu pendant la période de confinement que toutes les maladies à transmission respiratoire avaient chuté pratiquement à un niveau zéro. Or, la mortalité par maladie infectieuse, en particulier respiratoire, y compris dans nos pays, reste substantielle, à peu près le double de l'accidentologie routière. On va avoir des gains auxquels on n'avait jamais pensé, on n'avait jamais prêté beaucoup d'attention à la grippe en particulier. Et je pense que peut-être qu'on continuera à porter des masques, un peu comme le font les Asiatiques depuis longtemps, aussi pour des raisons de pollution atmosphérique, ce qui les concerne, mais il est très possible qu'on ait envie de porter le masque un peu plus longtemps après la crise du Covid.
Je vous remercie vraiment pour ces explications. J'aimerais terminer peut-être avec une question où l'on prend un petit peu d'altitude. En fait, si l'on regarde la filiation de ce virus, il est né quelque part en Chine, en contact avec les animaux. Qu'est-ce qui pourrait nous assurer que finalement, on n'est pas un virus qui, cette fois, pourrait être encore plus méchant, qui nous apparaisse et qui, quelque part, nous mette à mal ?
Oui, cette question, elle est importante parce que est-ce que l'on doit vivre cette crise de la Covid-19 comme une alerte se préparer pour faire tout pour minimiser le risque, ou est-ce que c'est une fatalité qui nous arrive une fois tous les 100 ans et que, ma foi, on va passer cette crise et on va attendre un siècle en priant que cela ne revienne pas. Il me semble que le risque est particulièrement élevé que ce type d'émergence survienne à un rythme plus fréquent que tous les 100 ans. Je dis cela parce que plusieurs auteurs, Jones en particulier, une équipe anglaise, a montré que les émergences épidémiques de maladies infectieuses se multipliaient. Autant la mortalité générale par maladie infectieuse a beaucoup diminué, Covid excepté, pendant les 50 dernières années, autant les maladies infectieuses émergentes n'ont fait que croître pour des raisons qui sont celles que vous signalez, la promiscuité ou l'interface entre l'homme, l'animal, son environnement, mais aussi en raison de beaucoup, beaucoup de changements globaux, les changements climatiques, pas forcément pour la Covid-19, mais pour beaucoup d'émergences, en particulier de maladies transmises par des moustiques, par exemple, et puis les changements de type déforestation, accroissement de la population urbaine, accroissement de la démographie mondiale. On n'est pas du tout, on avait 2 milliards d'habitants au moment de la pandémie de grippe espagnole, on en a 7,5 milliards aujourd'hui. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes types d'habitats, dans les mêmes types de pollution atmosphérique, dans les mêmes types d'urbanisation. Et tous ces facteurs ont tendance à faire augmenter les maladies émergentes de ce type. Donc je crois que il va falloir que la recherche au niveau international s'équipe de mieux. Vous savez, quand on voit que les modèles mathématiques qui aujourd'hui ont quand même très grossièrement prédit l'avenir de la crise de Covid-19, quand on voit que par exemple l'Imperial College prédisait 100 000 morts en Suède si elles s'entêtaient, comme disait-il, à leur politique de non-confinement social et économique, et qu'en fait les chiffres ont été élevés, mais on n'a pas dépassé 6 000. C'est quand même pas la hauteur de l'épaisseur du trait comme.
Et d'ailleurs, ces modèles, même modèles prédictifs ou soi-disant prédictifs, c'était aussi fortement trompé pour le SRAS.
Ils s'étaient trompés pour le SRAS, ils sont trompés pour Ebola, ils se sont trompés pour le SIDA, ils se sont trompés pour la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Enfin, ces modèles, en particulier les modèles Covid, ils ont été écrits en 1927. C'est des modèles extrêmement. La théorie mathématique des épidémies qui sous-tend les modèles utilisés par Imperial College, par l'Institut Pasteur, par nos amis des écoles polytechniques fédérales, sont tous des modèles qui reposent sur une théorie mathématique très ancienne. Je pense qu'il est temps d'avoir une recherche un peu innovante et créative pour trouver une théorie mathématique qui permette de mieux prédire, de mieux anticiper, car l'anticipation des risques est clé. Je veux dire, si on peut anticiper, si on pouvait répondre de façon plus substantielle aux questions que vous m'avez posées sur que se passera-t-il l'hiver prochain, c'est quand même pas de la prévision à très long terme. On n'est pas dans les prévisions que font les climatologues pour le changement climatique, par exemple. Donc on est vraiment dans des prévisions moyen terme, et je pense que là-dessus, il va y avoir en effet beaucoup d'investissements de recherche nécessaires pour pouvoir anticiper mieux les crises à venir.
Et c'est pour ça qu'on est ravis de vous accueillir ici à Campus Biotech.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.